On va aller joindre Loïc Tassé qui est à la maison aujourd'hui. Bonjour Loïc.
Bonjour Louis.
Mais ça ne t'empêche pas de suivre ce qui se passe en Thaïlande parce que, bonne nouvelle, on en parlait la semaine dernière puis on était plutôt pessimiste quant à l'opportunité de retrouver les 12 enfants et leur entraîneur qui sont pris dans cette grotte depuis quoi, une dizaine de jours maintenant. Mais là, ils ont été retrouvés vivants, ouais.
Alors, ils ont été retrouvés vivants, mais le niveau de l'eau demeure très, très élevé. Mais c'est une excellente nouvelle. C'est pour ça que je voulais commencer par ça, parce que quand même, c'est une belle chose. Tout le pays suit ça. En fait, toute la planète suit ça en ce moment. On a retrouvé ces enfants. Je ne sais pas si tu as vu les vidéos,
ouais.
Ils semblent en bonne santé, tu sais. Il y a juste un petit problème, c'est que ça a pris 6 heures à des spéléologues professionnels pour se rendre jusqu'aux enfants. 6 heures avec, entre autres, des passages sous l'eau, avec des scaphandres autonomes, etc. Donc, ça pose un problème pour les sortir de là, parce qu'ils sont très faibles, d'une part, et puis, de toute façon, ils ne savent pas faire de la plongée sous-marine.
Ouais.
En plus que c'est dans des conditions extrêmement difficiles, il fait noir, l'eau n'a aucune transparence véritablement, c'est dans une grotte, c'est normalement des conditions de plongée assez avancées. Alors, on est en train de se demander si on ne va pas les laisser là pendant quelques semaines, peut-être quelques mois, en attendant que l'eau baisse, parce qu'on n'est pas capable de pomper toute cette eau-là, parce que par capillarité, tu sais, par les petites fissures, il semble qu'il y ait de l'eau qui s'infiltre constamment. Donc, si tu veux, c'est le bémol sur cette excellente nouvelle d'autre part.
Ouais, c'est ça, parce que là, mais l'idée, comment ils ont fait pour se rendre là, tu sais, il y a eu un coup d'eau qui est survenu par la suite, c'est ce qu'on peut comprendre, n'est-ce pas?
C'est ça. Probablement que l'eau est entrée dans des salles plus basses,
ouais.
Et ils ont eu le chemin vers la sortie coupé, et donc ils sont montés de plus en plus dans la grotte jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dans cette caverne qui n'est pas la plus grande, mais qui est quand même assez élevée à l'intérieur même de cette grotte. Donc encore une fois, c'est vraiment une belle nouvelle parce que quand même, ils n'avaient pas de nourriture et ce sont des enfants, il aurait pu arriver toutes sortes de choses plus désagréables et bon, ils sont quand même sains et saufs.
Alors ouais, ça, c'est assez merveilleux. Ils sont restés pendant plusieurs jours dans le noir, mais quasi complet finalement,
ah,
parce qu'il n'y a pas l'ombre d'une lumière qui rentre là.
Rien. Pendant 12 jours.
L'ombre d'une lumière, c'est drôle ça quand même.
C'est ça. Mais remarque, on va installer l'ombre d'une lumière. Tu peux le voir comme ça si tu veux.
C'est presque de la poésie, mon affaire.
C'est de la poésie.
Merci.
C'est de la poésie.
C'est ce que je pense aussi. Bon, Wikipédia qui ferme sa page en italien, pourquoi?
Ben, parce qu'ils sont pas contents.
Ouais.
À cause d'un projet de loi européen, ils veulent protester, ils voulaient qu'on en parle à travers le monde, alors c'est fait. Ils ont fermé leur page en italien hier, parce que figure-toi qu'il y a un projet de loi que les Européens sont en train de discuter, qui les ennuie beaucoup. En principe, c'est très bien ce projet de loi-là, ça sert à payer le copyright, dont les droits d'auteur, tu sais, et puis ça sert aussi à... rentabiliser les gens qui les liens Internet, c'est-à-dire que si on met un lien sur Internet, si une grande compagnie fait ça, ben elle devrait payer l'auteur qui a écrit un texte. Sauf qu'ils disent, écoutez, c'est pas si simple ça. D'abord, vous voulez qu'on fasse respecter le copyright, mais c'est sur le contenu qui est mis en ligne par des utilisateurs, et on sait que Wikipédia, c'est entre guillemets une encyclopédie qui est faite par les utilisateurs. Donc effectivement, il y a probablement pas mal de plagiat là-dedans. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit à nos... Une des raisons pour lesquelles on dit à nos étudiants de jamais utiliser ça pour leurs travaux. Donc, le problème, c'est que ils n'arriveraient pas véritablement à nettoyer, si tu veux, leur site de tous ces passages qui sont plagiés.
Ouais.
Et puis, ils disent en plus, écoutez, qu'est-ce qui arrive avec les images qu'on retransmet avec une image, avec une remarque moqueuse, par exemple? Qu'est-ce qui arrive avec les citations? Qu'est-ce qui arrive avec les parodies, les caricatures? Est-ce que ce serait tout interdit? Et le projet de loi est vraiment pas clair là-dessus. Alors, eux demandent une exemption pour les encyclopédies à but non lucratif. Et ils veulent aussi éviter de payer, évidemment, pour tous les liens qu'ils ont sur leur site.
Ouais.
Parce qu'ils disent, ça peut sembler ça aussi une très bonne idée à première vue, mais en fait, les petites compagnies, les compagnies qui commencent, n'ont jamais l'argent requis pour payer tous les auteurs, etc. Donc, on dit, tout ça, ça part d'une très, très bonne intention, faire respecter les droits d'auteur, payer davantage les auteurs, mais de la façon dont vous le faites là, ça risque de pénaliser la liberté d'expression et ça risque de faire autre chose que ce que vous voulez. Et on sait qu'il y a beaucoup de gouvernements qui sont très chatouilleux avec les critiques qu'on peut poser sur eux. Donc, ça pourrait éviter justement que des critiques, par exemple, sur un gouvernement soient reproduites un peu partout. Alors, c'était le message là-dessus de Wikipédia.
Mais, tu sais, on parlait tout à l'heure de contenu qui peut être plagié sur d'autres sites, dans d'autres textes, etc., puis envoyé ensuite sur Wikipédia. Mais c'est vrai dans toutes les langues, là, pas juste en italien.
C'est pas juste, bien sûr. Et les étudiants font ça aussi, et c'est un problème à l'université. C'est pour ça qu'il y a des, il existe des programmes informatiques auxquels les universités adhèrent souvent. Et on peut passer, par exemple, les textes de nos étudiants dans ces moteurs de recherche-là. Et c'est pas... C'est pas fiable à 100%, hein. Ils te disent, par exemple, il y a tant de chances que le texte ait été plagié, il y a telle probabilité, etc. Et souvent aussi, ce sont des citations qui sont là-dedans. Alors évidemment, les citations comptent comme, si tu veux, c'est pas un plagiat, mais l'ordinateur ne reconnaît pas ça, évidemment, véritablement. Il fait pas une analyse fine du texte. Alors, c'est un peu embêtant, ce genre de moteur de recherche pour identifier ce qui a été plagié.
Bon, Mike Pompeo est en route, en fait, va être en route jeudi pour la Corée du Nord.
Oui, c'est plus sérieux comme nouvelle, ça, parce que il va se rendre là-bas pour discuter donc avec Kim Jong-un et de grands responsables. Il va aussi rencontrer ensuite samedi à Tokyo des responsables japonais et sud-coréens. Mais le problème, c'est que NBC, le grand réseau d'information américain, a obtenu des informations qui ont coulé d'un fonctionnaire d'une agence de renseignement qui a dit « Écoutez, les Nord-Coréens, en ce moment, sont en train de renforcer leurs capacités militaires. Ils sont en train de cacher ailleurs toutes leurs capacités de fabrication de missiles et d'armement atomique. » Alors, ça embête un petit peu, évidemment, la Maison-Blanche, qui a quand même fait remarquer qu'il n'y avait pas eu de nouvel essai de missiles depuis 8 mois, c'est vrai. Pas non plus d'essai nucléaire, c'est vrai, mais... Je ne pense pas que les Nord-Coréens aient nécessairement besoin d'avoir davantage d'essais de missiles et davantage d'essais nucléaires pour que leur bombe soit une menace. Et puis, il n'y a toujours pas véritablement de calendrier du désarmement nord-coréen.
Ouais.
Alors, de plus en plus de gens se demandent si Trump n'a pas été roulé dans la farine. Et tout ce qu'on trouve à répondre, c'est que peut-être que Trump pourrait rencontrer à nouveau Kim Jong-un. Mais cette fois-ci, figure-toi que ça aurait lieu à New York, cette rencontre-là.
Ouais. Mais là, Trump, en fin de semaine, disait « Non, ils sont très sérieux, les Nord-Coréens, dans leur effort de dénucléarisation. » C'est un peu... ça va complètement à l'encontre des renseignements qui sortent justement par le biais d'NBC, entre autres.
Mais tu sais, Donald Trump est un très grand expert en relations internationales, sécurité aussi. il a ses propres vérités, n'est-ce pas? Écoute, je pense qu'il n'y a personne qui croit Trump maintenant quand il dit quelque chose véritablement. C'est évidemment sujet à caution, tout ça.
Et, il est aussi bon, en fait, en relations internationales qu'il l'est en commerce international.
Il a fait faillite combien de fois dans sa vie?
Oui, exactement.
Je ne sais plus, hein, c'est incroyable.
À plusieurs reprises, effectivement. Les Chinois veulent s'allier aux Européens dans une guerre commerciale contre les États-Unis.
Contre les États-Unis, notamment à l'OMC. Et il y a un grand sommet européen-chinois qui va se tenir à Pékin les 16 et 17 juillet prochains. Et donc, ce qu'ils sont en train de dire, c'est « Écoutez, pourquoi est-ce que vous alliez pas à nous contre les États-Unis ?» Mais les Européens ne veulent pas. Pour le moment, il y a une forte résistance parce qu'ils ne veulent pas vraiment choisir le camp de la Chine contre le camp des États-Unis. Parce qu'en fait, ce que disent les diplomates, c'est qu'ils sont d'accord avec les accusations de Trump contre la Chine.
Ouais.
Effectivement, la Chine fait du dumping. La Chine, en effet, vole la propriété intellectuelle. Je pense qu'il y a à peu près personne, sauf les Chinois, qui dit le contraire. Mais ils disent, les solutions n'ont pas de bon sens. Les solutions de Donald Trump n'ont aucun sens. C'est là qu'est le problème. Mais remarque bien ce qui se passe en ce moment. C'est que les Chinois sont en train d'exploiter les divisions entre les pays occidentaux et ils les accentuent. Mmh. Ils les accentuent en commerce, ils les accentuent dans le domaine des droits de la personne, etc. Et ça, c'est très mauvais. Et je sais que les partisans de Trump m'aimeront pas. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est Trump qui a ouvert la brèche parmi les pays occidentaux qui faisaient plutôt front commun depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, non. Et la Chine, donc, est en train de profiter de ça. Et je te fais remarquer qu'elle fait la même chose ailleurs. Elle est en train, en Asie de l'Est, d'essayer de rallier derrière elle le Japon, la Corée, dans une espèce de vaste entreprise pour développer un traité de libre-échange. C'est quand même intéressant que le gouvernement chinois se sente assez fort pour faire ce genre de propositions.
Mais il faut dire que la Chine, économiquement, et sur tous les continents, est très, très, très présent en Afrique, entre autres choses.
Bien sûr. Les auditeurs le savent bien, je le répète souvent, en termes de parité de pouvoir d'achat, la Chine, c'est 23 000 milliards de dollars. C'est la première économie du monde.
Ouais.
Les États-Unis sont deuxièmes à 19 000 milliards de dollars.
Ouais.
Et le taux de croissance de la Chine est bien plus élevé que celui des États-Unis. Donc, l'écart entre la Chine et les États-Unis s'agrandit constamment. Et c'est un sacré problème pour les États-Unis. Moi, je ne crois pas qu'ils soient capables tout seuls de venir à bout, si tu veux, de contenir la Chine ou pas du tout. Ils ont besoin de leurs alliés. Mais Trump ne va pas du tout dans cette direction-là en ce moment.
Mmh. Et l'administration Trump qui tente de barrer l'entrée du marché américain à China Mobile, ça c'est une grande compagnie de téléphones cellulaires.
Mais oui, c'est la plus grande compagnie au monde. Ils ont 900 millions de clients, 450 000 employés à travers le monde. Et il y a 7 ans, ils se sont dit, tiens, ce serait bien si on entrait dans le marché des États-Unis. Alors, ils ont fait une demande pour entrer dans le marché américain. Et la réponse du département du commerce américain vient de tomber, c'est un refus. On refuse pour des motifs de sécurité,
ouais,
parce qu'on dit que cette compagnie peut faire des intrusions dans la vie privée des gens, des attaques informatiques, des actes d'espionnage, etc. Et on dit que 73% de cette compagnie est détenue par une société publique chinoise. Remarque bien qu'elle serait totalement privée, ça ne changerait pas grand-chose non plus. C'est sûr que c'est le gouvernement chinois qui est derrière. Et c'est certain que le gouvernement chinois utilise des compagnies, des grandes compagnies de télécommunications pour faire de l'espionnage. Mais permets-moi de te dire que les États-Unis font la même chose, la France fait la même chose. Ils sont loin d'être innocents, les Américains, quand ils accusent les Chinois de faire ça.
Ouais, puis il y avait la grande compagnie de téléphone là, qui est dans le marché, qui tente de percer le marché américain, mais ça leur a été refusé. Là, c'est Huawei, comment il s'appelle?
Huawei, aussi, ça a été refusé. Puis tu as ZTE, grande compagnie aussi qui fournit de l'équipement électronique, etc. Eux aussi ont des problèmes. Puis il y en a d'autres, il y a Xiaomi, OnePlus. En ce moment, les compagnies chinoises ont de plus en plus de problèmes à pénétrer le marché américain.
Ouais.
Et c'est sûr que ça fait partie de la guerre commerciale, mais en même temps, il y a le gouvernement américain qui commence à se réveiller, qui commence à comprendre qu'il y a des problèmes. Tu sais, je regardais sur les 500 plus grands ordinateurs au monde, il y en a quelque chose comme 201 maintenant qui sont chinois. Il y a plus de super ordinateurs chinois dans le monde que de super ordinateurs américains. Et les Américains vont peut-être passer en première position, parce que les ordinateurs les plus puissants, les tout premiers, sont chinois.
Ouais.
Ils vont peut-être passer en première position avec un ordinateur IBM, mais les Chinois les talonnent. Et ça, c'est très important, parce que c'est toute la recherche, c'est tout l'espionnage, c'est tout l'espace. Mmh. Il y a énormément d'applications qui se font là-dedans. Et si tu veux savoir où en sont différents pays au niveau de la lutte pour, si tu veux, la domination scientifique, regarde leur super ordinateur, regarde où ils en sont, et on voit très clairement ici que les Chinois sont en train de dépasser les Américains d'une manière absolument incroyable.
Ouais. Et le gouvernement chinois qui a renouvelé une mise en garde aux voyageurs chinois qui se rendent aux États-Unis, laquelle?
Il leur a dit, faites attention si vous vous rendez aux États-Unis. Il avait déjà fait ça en janvier.
Ouais.
Les factures médicales sont exorbitantes là-bas. Si vous tombez malade, faites attention. Alors que ça vaut pour tout le monde. Hein.
Ben oui.
Ça, c'est tout à fait vrai aux États-Unis. Attention aussi au vol. C'est une société qui est violente. Il y a beaucoup de tirs par balle. Faites attention aux fraudes en télécommunications. Faites attention aux douanes, aux fouilles et à la confiscation. Et ils ont rajouté, faites attention aussi aux désastres naturels. Et l'objectif des Chinois en faisant ça, du gouvernement chinois, c'est évidemment d'essayer de faire baisser le nombre de touristes chinois qui seront aux États-Unis. Donc, c'est, si tu veux, de bonne guerre commerciale, si tu me passes l'expression.
Monsieur Tassé, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se reparle demain.
C'est toujours un plaisir. À demain.
Au revoir. C'était Loïc Tassé, les Nouvelles internationales.